Bon début de semaine à vous tous. Merci beaucoup d'être à l'écoute de cette émission. On va passer la matinée ensemble et je vous le dis tout de suite, on a décidé bien sûr de poursuivre le sujet abordé préalablement par Paul Arcand, qui vous donnait la parole. Puis je tiens, pardon, tout de suite à vous donner nos numéros pour nous joindre parce que je veux vous donner l'occasion de poursuivre là-dessus, de donner votre opinion, de pouvoir nous raconter comment vous vous sentez. On parle bien sûr de santé mentale ce matin. On s'en est déjà parlé la semaine dernière et au cours des dernières semaines. C'est le sujet qui prend toute la place et avec raison. Ça fait combien d'années qu'on dit qu'il faut s'en occuper de la santé mentale des Québécois et en particulier de ceux qui sont diagnostiqués avec des maladies importantes qui touchent leur santé mentale, des cas de psychose, de cas de schizophrénie, qui malheureusement sont mal ou peu encadrés pour toutes sortes de raisons, qui touchent beaucoup aussi l'organisation de notre système de santé, mais qui touchent beaucoup aussi son manque de financement. Le manque de financement criant santé mentale, on le dit, on le dénonce depuis des années et il a fallu encore ce drame à Québec en fin de semaine. Un jeune qui visiblement a des graves problèmes de santé mentale, Carl Giroir, qui a froidement tué deux citoyens de Québec. Il en a blessé cinq autres au cœur d'un quartier sans histoire, un quartier historique, mais qui n'a pas d'histoire d'habitude, où les gens, vous avez vu tous ces témoignages de gens, ils appellent ça leur salon tellement c'est tissé serré ce monde-là dans le quartier. Puis on a une bonne pensée pour les gens de Québec qui nous écoutent parce que beaucoup de parmi vous se disent « Mon Dieu, ça aurait pu être moi, ça aurait pu être mes proches. » Tout le monde a son histoire de « Je suis passée par là une demi-heure avant. » Il y a même une jeune là ce matin dans le journal qui raconte, Maïté, à quel point elle a même croisé le regard du tueur. Imaginez. Au-delà de ça, au-delà de cet événement-là, il y a toutes les questions de santé mentale qui nous amènent aujourd'hui à nous questionner là-dessus. Je vous donne nos numéros pour participer à notre discussion. Dans la grande région de Montréal, vous faites le 514-790-9850. De l'extérieur, partout au Québec, où que vous soyez, que vous nous écoutez, intervenez, prenez la parole ce matin pendant cette première heure, 1-866-790-9850. On l'a entendu beaucoup, mais on a encore beaucoup de questions pour lui parce qu'il est bien au fait de la maladie mentale et de ses conséquences. C'est le docteur Gilles Chamberlain. Il est psychiatre à l'Institut national de psychiatrie légale Philippe Pinel. Bonjour, docteur Chamberlain.
Bonjour.
Évidemment, c'est directement dans votre champ d'intervention que ce genre de questions. On en revient, nous, on avait envie de poser la question ce matin à nos auditeurs et je vous la pose à vous. Comment peut-on éviter d'autres drames du genre? C'est loin d'être le premier. On souhaite à chaque fois que ça soit le dernier. On sait toutefois qu'à moins d'y mettre des ressources supplémentaires et peut-être autre chose que juste des ressources, on n'y arrivera pas. D'après vous, quel est le nœud du problème quand il s'agit de ce genre de tuerie, de drame?
Le nœud du problème, on va prendre pour acquis que c'est un patient psychiatrique, là, tout s'enligne vers ça, c'est que la maladie fait en sorte que ces gens-là ont déjà tendance à s'isoler. Si vous parlez aux familles, elles vont vous dire on perd le contact, on reconnaît plus notre enfant, il ne nous parle plus, il s'enferme dans le sous-sol. Fait que déjà, si cette personne-là a la chance d'avoir une famille autour de lui, elle va avoir tendance à s'isoler. Fait qu'imaginez ceux qui n'ont pas la chance d'avoir une famille, ils vont s'isoler, on n'en entendra pas parler, ils peuvent avoir des délires qui vont évoluer de façon catastrophique, parfois sans que personne s'en rende compte. Donc, c'est important d'essayer de garder contact avec ces gens-là. Aider les familles qui sont désespérées, qui ne savent plus comment interagir avec leurs pauvres enfants qui ne reconnaissent plus. Et ceux qui sont déjà désinsérés de la société, essayer de leur trouver des endroits où ils vont pouvoir aller et où on va pouvoir les rejoindre. On manque déjà cruellement de logements sociaux. Fait qu'imaginez pour les pauvres patients démunis comment c'est difficile de se loger et comment c'est facile de s'isoler, de se faire oublier. Et là, la maladie progresse sans que personne ne puisse le voir.
Là, vous parlez donc d'isolement, perte de contact, qui emmène à des délires. Et bon, c'est toute la notion de l'accès. Hein, vous venez de dire il faut les envoyer vers les bons endroits. Ce qu'on voit aussi, c'est que l'urgence, c'est pas le bon endroit. Ça peut pas être le seul et unique endroit vers qui se tourner, là.
Effectivement. L'urgence demeure nécessaire. En cas de crise, si ça va vraiment mal, faut savoir où se tourner. Et les urgences sont toujours disponibles. Ça, c'est clair. Et les gens le savent. Il faut pas hésiter à y aller si jamais on a quelque chose ou on a des doutes. Cependant, une urgence, ça éteint des feux. Idéalement, ça serait d'arriver avant ça. Parce que les patients, quand ils sont rendus en crise, quand ils sont trop enfoncés dans leur délire, ils ne voudront pas y aller à l'urgence. Ils ont perdu l'autocritique, ils peuvent être aidés. Perdu l'autocritique, c'est la réalité, c'est pas leur monde à eux. Et souvent, ils vont refuser d'y aller. Et quand on est rendu à cette étape-là, c'est complexe, il faut démontrer un danger. On tombe dans le domaine légal, c'est les tribunaux qui vont permettre qu'on les évalue. Idéalement, ça serait d'approcher ces patients-là avant cette étape-là, c'est-à-dire de les visiter régulièrement, d'avoir des gens à domicile qui vont aller les voir. Et ces personnes-là formées, on peut pas demander à la famille de faire ça. La famille, ils sont là pour supporter, non pas des fois pour mettre des contraintes, des balises, des choses comme ça. Ça prend quelqu'un de compétent qui va arriver de l'extérieur, qui va pouvoir donner des conseils.
Avez-vous assez les coups des franges, vous, les médecins, psychiatres, pour intervenir, Dr Chamberlain?
Pas tout à fait, mais pour des bonnes raisons. Le Collège des médecins nous dit que l'obligation de confidentialité, le secret professionnel, c'est quelque chose de sacré. Et c'est important que ça reste comme ça. Nos patients nous confient des choses qu'ils ne nous diraient pas s'ils n'étaient pas assurés qu'on le garderait pour nous. Donc, les règles sont claires, la loi est claire. On ne peut libérer de l'information que si le danger est grave et imminent. C'est le imminent qui est important dans ça. Ça veut dire que l'information qu'on a, si on la libère, on va pouvoir prévenir quelque chose presque assurément. Sinon, on n'a pas le droit d'en parler. Donc, souvent, on reste avec des choses sérieuses, mais on n'a pas le droit de les garder pour nous. On est obligé de les garder pour nous, on n'a pas le droit de les partager.
Mais il n'y a peut-être pas là, quand même, amélioration à avoir dans la loi. Il y a quand même une loi au Québec, là, on le dit beaucoup là depuis les dernières 48 heures, on ne peut jamais intervenir, on ne peut pas forcer quelqu'un qui ne veut pas se faire soigner, quelqu'un, par exemple, qui devrait prendre une médication, mais qui refuse de la prendre. On ne peut pas forcer cette personne à se soigner. Ça, c'est un fait, ça, Dr Chamberlain? Oui. On ne peut le pas?
Effectivement, on ne peut pas. C'est une question de droits et libertés, c'est des choix de société. Et même avec la loi actuelle qui implique qu'on attende un danger. On ne peut pas faire évaluer quelqu'un si on n'est pas capable de démontrer un danger. Ça prend même un danger grave et immédiat pour que les policiers, les agents de la paix interviennent. Si on a simplement un danger, il faut que la famille aille devant les tribunaux pour demander au juge de faire évaluer la personne.
Voilà.
Donc, on a tout basé sur le danger. Ce qui est peut-être un critère un peu exigeant. Mais même avec ce critère-là, il y a des gens en ce moment qui considèrent qu'on en impose trop aux patients, on brime leur liberté. Mais même avec ces critères-là, il y a des gens qui les contestent. Donc, on voit que c'est un choix que la société doit faire. Et là, on peut regarder des choix que d'autres sociétés ont fait. À partir du moment où quelqu'un est souffrant puis n'est pas capable de demander de l'aide pour lui-même, peut-être ça pourrait être un critère autre que simplement le danger.
Parce que là, au Québec, en ce moment, il y a quand même une loi qui fait que, on l'appelle la loi sur la dangerosité en lien avec l'état mental d'une personne. Et c'est ce que vous dites. Bon, quand on voit que cette personne-là présente un danger pour elle-même ou pour autrui, on peut avoir recours à la loi P38.001. C'est très technique, mais c'est ça. On peut demander un P38 et qui vise à la protéger, cette personne-là. Mais encore là, est-ce qu'on est obligé de lui demander son avis? Comment ça marche? On aura tout à l'heure l'ex-juge Nicole Gibault là, qui va revenir là-dessus. Mais de votre avis à vous, là, vous comme psychiatre, à quoi vous sert cette loi P38?
Mais nous, comme psychiatres, elle nous sert moins que ben elle nous sert. Elle sert surtout aux gens qui sont proches des patients. Là, on parle pas d'un danger grave et immédiat, parce que c'est dans la loi P38 aussi. Si un danger grave et immédiat, tout le monde peut appeler un agent de la paix. C'est quelqu'un qui est en haut d'un pont, qui veut se jeter en bas, ou quelque chose d'assez évident. Mais là, ce qu'on parle, c'est quelqu'un qui présente un danger, mais qui n'est pas encore sur le point de s'actualiser. Là, la seule chose qu'on peut faire, c'est de demander à un juge d'émettre une ordonnance pour que cette personne-là se fasse évaluer. Et le problème, c'est qu'on tombe dans le système judiciaire, on tombe dans une confrontation. Ça va être le père qui va prendre cette demande-là contre son fils, parce que dans le système qu'on a, c'est ça. Ça va être comme... Mais le père n'est pas contre le fils, le père veut aider le fils. Mais là, on va aller devant les tribunaux, le patient va avoir un avocat de l'aide juridique, le père n'aura probablement pas, et là, il va avoir une confrontation pour essayer de démontrer que son fils présente un danger. Et évidemment, les familles hésitent à demander ça parce qu'ils vont s'antagoniser la personne pour qui ils demandent, comme s'ils étaient contre cette personne-là. Fait que non seulement ça prend du temps, la personne va perdre une journée, ça prend souvent de l'argent, parce que le faire tout seul, c'est compliqué, mais c'est surtout la charge émotive de prendre ça contre une personne qu'on aime. C'est un recours qui est assez assez difficile à prendre.
Donc, ce qu'on en conclut, c'est que ça devrait être un autre endroit qu'un tribunal. On vient de dire l'urgence quand c'est vraiment urgent, d'accord, mais sinon, il faudrait un autre lieu. Là, vous êtes en train de confirmer aussi que, bon, finalement, une cour de justice, c'est pas le meilleur endroit non plus pour gérer ça. Qu'est-ce que vous suggérez, vous, si on vous demandait, là vous avez les coups des franges, docteur Chamberlain, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous demanderiez?
En France, il y a un très bon système. C'est des gens qui se déplacent dans les urgences. Donc, on amène le patient à l'urgence, et là, il y a, ça peut être des gens très objectifs, là, aussi objectifs que si on avait affaire à la cour. Il peut y avoir un clinicien et un juriste qui vont se rendre dans l'urgence, qui vont parler au médecin, qui vont parler au patient, parce que ça existe aussi le tribunal administratif qui peut reviser des gardes d'établissement. Mais encore là, le processus est lourd, il y a un avocat, il y a tout ça, mais ça prendrait quelque chose de plus rapide, plus efficace, des gens tout à fait neutres, objectifs, qui se déplacent, qui vont dans les urgences, qui disent « oui, vous pouvez l'évaluer, oui, gardez-le encore quelques jours, on va repasser dans 2-3 jours, voir si ça va mieux », des gens qui vont contrôler ça sur place, sans avoir toute la lourdeur du processus légal et surtout sans que ça soit un membre de la famille qui a l'air contre le patient quand c'est pas ça du tout.
Ouais, parce que là, il faut quand même l'admettre, là, le suspect là, en cause, Carl Giroir, on dit qu'il y a 5 ans, il avait déjà émis ce désir de tuer des gens. Dans un contexte médical, il avait fait cette révélation. On ne sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé par la suite, mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que 5 ans plus tard, il est passé de la parole aux actes.
Exactement. On n'est pas surpris non plus si c'est un patient psychiatrique. Souvent, c'est les mêmes délires qui sont récurrents, qui vont réapparaître avec un peu plus d'intensité quand les gens sont déstabilisés, qui peuvent disparaître complètement s'ils sont bien traités. Mais nos médicaments sont pas parfaits, ont des effets secondaires. Souvent, les patients disent si jamais ça revient, je vais le voir venir. Ce qui est une erreur parce que c'est très insidieux, ça se glisse, les patients ne le voient pas et tout à coup, ils sont dans une autre réalité et ils s'en sont pas rendus compte et ils voient pas l'importance de prendre la médication.
Mais on l'a échappé, là, parce que normalement, il y a 5 ans, on aurait pu contrôler cet individu-là.
Bien, on l'a échappé. On ne le sait pas. Peut-être qu'il y a 5 ans, on l'a effectivement bien contrôlé. On ne le sait pas du tout. Et peut-être que, justement, il allait très bien et qu'après un certain temps, il a arrêté sa médication avec ou sans un suivi médical. C'est une hypothèse. Et là, les chansons que tout revient, mais là, il y a peut-être plus personne autour à ce moment-là.
Merci beaucoup, Dr. Gilles Chamberlain, pour ces infos. Le Dr. Georges Chamberlain est psychiatre à l'Institut national de psychiatrie légale Philippe Pinel. On va s'arrêter ici. Vous êtes nombreux à vouloir intervenir. On va vous donner la parole. On va aussi également avoir un ex-policier du SPVM, Philippe Paul, qui connaît bien l'intervention psychosociale. Il va nous en parler tout de suite après. Philippe Paul est un ex-policier au service de police de la ville de Montréal. Il y a été pendant près de 30 ans. Il a écrit plusieurs livres, dont le Code 41, le pouvoir de l'informateur. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Vous êtes ce policier aussi qui est arrivé. Vous avez été à Polytechnique, Dawson, Concordia, des événements là, qui ont été extrêmement dramatiques. La tragédie de Québec et toute la question sur est-ce qu'on peut éviter ce genre de drame quand il s'agit de quelqu'un qui a des problèmes psychiatriques. Qu'est-ce que vous en pensez, Philippe Paul?
Oui, effectivement, j'étais dans 3 fusillades dans des écoles. Un malheureux hasard là, dans mon cas. Et puis, la question qu'on me demande souvent, est-ce que c'est quelque chose qui peut être limité? La réponse, c'est non. La plupart de ces choses-là sont causées par des gens qui ont des problèmes de santé mentale. On regarde d'ailleurs le monsieur déguisé en médiéval qui a commis des 2 meurtres à Québec. Même en Nouvelle-Écosse, les 25 meurtres qui ont été commis par l'homme déguisé en agent de la GRC avaient certains problèmes. Aux États-Unis, le cinéma d'Aurora, en juillet 2012, un homme déguisé en Joker est rentré à l'intérieur et a fait plusieurs victimes lors d'un film de Batman. Mais ça date pas d'aujourd'hui. Si on regarde, quand j'ai commencé comme policier dans le milieu des années 80, on parlait encore du 14 décembre 62 où 2 policiers avaient été tués par un homme déguisé en Père Noël lors d'un vol qualifié avec 2 autres voleurs. Donc, c'est pas d'aujourd'hui qu'on fait face à ce genre de choses-là. C'est pas toujours la santé mentale. Mais avec ce qu'on vit aujourd'hui, avec le confinement depuis le mois de mars, ainsi de suite, évidemment, ça devient de plus en plus difficile. On le voit même dans les réseaux sociaux. On a des menaces qui sont proférées via les réseaux sociaux. Et puis, de temps en temps, ben, on en a un qui qui passe à l'acte, comme ça a été le cas malheureusement à Québec il y a deux jours.
Ouais. Que peuvent faire les policiers, Philippe Paul? Les policiers, vous n'êtes pas des travailleurs sociaux, mais vous êtes souvent la première ligne.
Oui, effectivement, on est la première ligne. Et malheureusement, dans certains cas, on est la première ligne quand on ne devrait pas l'être, parce que c'est des problèmes de santé mentale. On a encore un homme qui a été abattu par les policiers il y a quelques jours à Montréal, qui proférait des menaces avec un couteau. Un homme qui avait des problèmes de santé mentale. Ça devient très difficile de tout coordonner, ce genre de choses-là. Oui, les interventions sociales devraient être plus présentes, mais coordonner tout ça devient lourd. Parfois, les gens ne prennent pas leurs médicaments. Évidemment, ils ne sont pas tous internés, ces gens-là. Les gens qui sont en liberté ne sont pas nécessairement suivis adéquatement. Et puis, évidemment, ça arrive parfois là, que les gestes insensés sont posés, là, comme on a vu.
Quand vous voyez, quand vous êtes en patrouille de ce que vous en saviez à l'époque quand vous y étiez, ça fait quand même pas si longtemps, Philippe, qu'est-ce qu'un fait un policier quand il intervient comme ça face à quelqu'un qui, visiblement, est dans soit un délire ou une psychose? Qu'est-ce que peut faire la police à part l'amener à l'urgence?
Ben, écoutez, ça m'est arrivé d'ailleurs à plusieurs reprises, comme à beaucoup de mes collègues d'ailleurs, et souvent, cette personne-là, on intervient parce qu'elle a commis un crime. Donc, évidemment, souvent, le policier portera des accusations et en détention, on demandera à ce que cette personne-là obtienne un suivi psychiatrique, voir si elle est apte à subir un procès, ou si, dans le cas contraire, elle n'est pas apte, mais qu'elle obtienne les soins adéquats qu'elle a besoin. Mais voyez-vous, entre le policier qui intervient et cette personne-là qui a besoin de soins, il y a un fossé entre les deux. Les services sociaux, les services qui sont amenés à ces personnes-là, souvent ne le sont pas dans les moments opportuns où cette personne-là est en crise. Mais on ne peut pas vraiment en vouloir aux gens qui offrent ces services-là, parce que c'est de la santé mentale. C'est difficile à établir, c'est difficile à savoir quand, où et comment. Et surtout, évidemment, après la Polytechnique, on m'avait posé la question, si quelqu'un décide de faire la même chose demain, est-ce que il va se passer la même chose? Mais la réponse, c'est malheureusement oui. La police est mieux formée aujourd'hui qu'elle l'était à l'époque. Les interventions dynamiques se font immédiatement par les premiers intervenants sur les lieux. Toutefois, si une personne qui est aux prises avec des problèmes de santé mentale décide de rentrer dans un centre d'achat ou ailleurs pour commettre l'irréparable, mais malheureusement, ça va se produire encore. Les interventions là, sont souvent trop tard dans ces moments-là.
Philippe Paul, merci beaucoup pour cet éclairage. Philippe Paul, ex-policier au SPVM. Allez lire son livre « Code 41 », c'est sur les informateurs, c'est assez passionnant. On va s'arrêter ici. Pourquoi? Parce que nous allons diffuser dans les prochaines minutes la mêlée de presse du premier ministre François Legault, alors qu'il répondra aux questions des journalistes. C'est inhabituel qu'on le diffuse, ce genre de mêlée de presse, mais là, vous comprendrez l'urgence de la situation parce que, bon, bien sûr, le sujet premier sera sans doute la tuerie de Québec, les besoins en santé mentale. C'est directement dans notre sujet. On trouvait que c'était intéressant pour vous donc d'entendre les propos et surtout les réponses qu'aura à donner François Legault là-dessus d'ici, tout de suite après cette pause, en fait. Alors, nous attendons dans les prochaines minutes l'arrivée du premier ministre François Legault qui va donc répondre aux questions des journalistes. On me dit là, qu'il est en train de s'installer, donc ça devrait se passer là, d'ici les prochaines secondes. Est-ce que j'ai le temps quand même de discuter avec... On va tout de suite rejoindre François Legault qui répond aux questions des journalistes.
Toujours aussi vive suite à ce qui est arrivé samedi soir à Québec. On espère que le temps va faire disparaître un peu cette douleur là, suite à ce drame. Évidemment, je veux saluer la mémoire de Mme Clermont, M. Duchesne, qui sont morts de façon tellement injuste. Je veux aussi souhaiter un prompt rétablissement aux 5 autres victimes. Je veux aussi remercier, il y a beaucoup de gens qui ont eu du courage samedi soir. Là. Je pense entre autres à des voisins qui ont secouru les victimes. Je pense aux policiers aussi qui ont fait un travail très professionnel pour attraper rapidement la personne qu'on soupçonne d'avoir fait ça. Je veux remercier les ambulanciers, le personnel médical à Québec qui a agi rapidement. Donc, merci à tous les gens de Québec. Évidemment, ce qu'on a vécu samedi soir, c'est effroyable. On peut pas comprendre comment on peut voir une telle violence gratuite. Et ça soulève toutes sortes de questions sur les maladies mentales. Cet après-midi, le ministre Lionel Carman va faire le point. On a posé déjà beaucoup de gestes, beaucoup d'actions, entre autres pour augmenter les ressources en santé mentale. On travaille actuellement aussi à rapprocher tous les services sociaux des services policiers. On voit que de plus en plus, ces deux services-là doivent travailler ensemble. Donc, Lionel va pouvoir, cet après-midi, faire le point sur les actions qu'on a faites, puis les actions qui s'en viennent aussi en matière de santé mentale, même si on en a fait déjà beaucoup dans les derniers mois, il y en a encore beaucoup à faire. Et évidemment, on peut réduire les impacts pour certaines personnes qui ont des maladies mentales. Je dirais même qu'en donnant plus de services, il y a plusieurs personnes qui peuvent voir les conséquences réduites, mais il faut être réaliste. Même si on avait tous les services, même si on prenait en charge tous les Québécois qui ont des problèmes de maladies mentales, on ne pourra jamais éviter tous les drames violents. Et je pense que les Québécois aujourd'hui, ce qu'ils doivent se rappeler, c'est d'abord, la nation québécoise est une nation pacifique, accueillante. Puis la meilleure façon de répondre à ce qui s'est passé samedi soir à Québec, c'est de rester nous-mêmes, donc un peuple qui est pacifique. Merci.
Merci beaucoup. On va maintenant débuter la période de questions des journalistes. Un micro est disposé derrière la caméra centrale en nommant votre nom, le média que vous représentez.
Oui, bonjour, M. Legault. Guillaume,
oui, bonjour.
Côté du Devoir. M. Labeaume disait hier que les problèmes de santé mentale entraînent des problèmes de sécurité publique. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette lecture-là et est-ce que pour vous, c'est une bonne façon d'approcher le problème de la maladie mentale?
Bien, j'ai parlé avec M. Labeaume hier. Puis, effectivement, on peut penser à des patrouilles mixtes, policiers, travailleurs sociaux. C'est vrai que les problèmes ont changé. Ce n'est pas unique aux grandes villes comme Québec. J'en discutais pas plus tard que vendredi avec le maire de l'Épiphanie qui me disait qu'il faudrait trouver une manière que peut-être des travailleurs sociaux avec une capacité de donner des contraventions puissent intervenir quand il y a des problèmes dans les parcs, des problèmes sociaux de toutes sortes. Donc, oui, il y a raison qu'il y a un rapprochement. Là, il faut d'abord, on sait que les psychologues, les psychiatres ont un devoir de confidentialité, mais par contre, quand il y a un risque de geste violent, bien, ils ont une obligation de transmettre cette information-là. Donc, il faut s'assurer que cette information-là est bien transmise au corps policier pour essayer encore là de prévenir.
Et quel est votre niveau d'inquiétude par rapport au fait que la pandémie, on arrive au mois de novembre, dans les mois les moins éclairés, les plus froids, tout ça. Êtes-vous inquiet à l'effet que ça exacerbe les problèmes de santé mentale qui peuvent ou qui pourraient être violents plus spécifiquement?
Oui, on a une inquiétude sur l'augmentation des problèmes de maladies mentales suite à la pandémie. On sait, les spécialistes nous le disent, il y a une augmentation du nombre de cas. Bon, je suis heureux de voir que notre liste d'attente a diminué On est passé de 28 000 à 16 000. C'est encore beaucoup trop, 16 000 personnes en attente de service depuis le mois de mars. Donc, on a commencé à investir. On va continuer à investir. Lionel Carman va faire des annonces cet après-midi. Oui, il y a un risque associé à la pandémie, là, que les personnes, parce qu'elles sont plus isolées, bien, développent encore davantage des problèmes de maladie mentale.
Et de violence?
Bien, je pense qu'il faut quand même ne pas faire peur au monde. C'est une petite minorité des problèmes, des personnes qui ont des problèmes de maladie mentale qui peuvent devenir violents. Mais il pourrait effectivement y avoir une certaine augmentation, donc il faut être encore plus prudent.
Prochaine question, la presse canadienne.
Lia Lévesque, de la presse canadienne. Depuis le drame de Québec, il y a beaucoup de gens qui disent qu'on est peut-être allé trop loin en matière de désinstitutionnalisation, qu'on a sorti des gens des institutions, mais sans toujours leur donner les ressources dans les groupes communautaires pour intervenir, les aider à ce sujet-là. Alors, je voudrais vous entendre.
Bien, c'est un sujet que j'ai discuté pas plus tard qu'hier avec le ministre Lionel Carman, qui se connaît bien. C'est vrai que ce débat-là revient régulièrement, la fameuse désince. Est-ce que ça s'est fait au détriment de la sécurité des citoyens? Lionel me disait que selon son expérience et son expertise, il pense que non, mais c'est une question qu'il faut se poser.
Prochaine question, TVA Nouvelle, Marianne Lapierre.
Bonjour, Marianne Lapierre de TVA Nouvelle. Monsieur Trudeau disait ce matin que le gouvernement fédéral avait transféré dans les dernières années 5 milliards de dollars en santé mentale aux provinces. Donc, le Québec a reçu combien de ce montant-là et comment a-t-il été dépensé dans les dernières années?
Bon, j'ai parlé à Monsieur Trudeau hier après-midi. Puis effectivement, il m'a dit ça et je lui ai répondu que notre problème, c'est qu'on n'a pas eu de sommes récurrentes. On a eu beaucoup d'argent, effectivement, de l'argent non récurrent, mais quand on va embaucher des personnes, il faut que ça soit récurrent. Je rappelle un peu le combat qu'on mène tous les premiers ministres de toutes les provinces pour dire que ça n'a pas de bon sens que le gouvernement fédéral soit passé de 50 % du financement de la santé, incluant la santé mentale, à seulement 22 %. Donc, si on va embaucher plus de personnel, que ce soit dans les CHSLD, que ce soit en santé mentale, ça prend de l'argent récurrent. Puis là, M. Trudeau doit comprendre que c'est inacceptable, étant donné qu'on envoie presque la moitié de nos impôts à Ottawa, puis que c'est la seule dépense qui augmente aussi rapidement. Là, on parle au moins de 5-6 % par année avant les impacts de la COVID, avant les impacts sur la santé mentale. Donc, j'ai été très clair avec M. Trudeau. On n'a pas actuellement un financement du gouvernement fédéral qui est à la hauteur des besoins des provinces en santé dans tous les domaines, que ce soit pour les aînés, que ce soit pour la santé mentale.
Au sujet des caricatures de Mahomet, êtes-vous d'accord avec Justin Trudeau comme quoi la liberté d'expression a ses limites?
Non, je suis pas d'accord avec Justin Trudeau. Je suis d'accord avec Emmanuel Macron. On peut pas accuser des personnes qui ont fait des caricatures de justifier de cette façon-là de la violence, là. Je suis vraiment totalement en désaccord avec M. Trudeau, là. Il faut protéger la liberté d'expression.
Et aller avec la prochaine question, la presse.
Bonjour, Véronique Lauzon de la presse. En Europe, en Italie, Espagne, il y a de plus en plus d'impatience, de mécontentement. Comment jugez-vous l'humeur des Québécois? Comme on disait, on commence novembre, là.
Bien, comme on dit, quand on se compare, on se console. Je pense que quand même, oui, il y a des Québécois qui sont tannés. Oui, quand je lis mon fil Facebook, je vois qu'il y en a beaucoup qui sont fâchés, mais je pense que ça reste une petite minorité. Et, écoutez, on a à jongler tous les gouvernements dans le monde entre la qualité de vie puis la vie tout court. Donc, on se trouve dans une situation où, pour sauver des vies, ça affecte la qualité de vie de l'ensemble des citoyens. Mais c'est un moindre mal, à mon avis. Et je pense qu'à partir du moment où tous les gouvernements le font, je ne pense pas que tous les gouvernements soient dans l'erreur.
Aussi, est-ce que vous songez à former un comité transpartisan pour la santé mentale? On voit que ça fonctionne bien pour les victimes d'agressions sexuelles.
Bien, Lionel Carman travaille déjà avec les partis d'opposition parce que je pense que la politique se termine en 2020. Donc, il va falloir, à partir de 2021, avoir une nouvelle politique. Puis, le ministre Carman consulte les oppositions.
Merci. Merci. Cogeco.
Bonjour, Annie Guillemette, Cogeco Nouvelle. Je vais revenir sur les listes d'attente. Vous dites qu'elles, bon, ça rapetisse. On a vu le même cas de figure à la DPJ. Les directions mettaient les dossiers sur les bureaux, retiraient le dossier sur la liste d'attente, alors que l'enfant ne recevait toujours pas de service. Qu'en est-il pour les gens qui ont besoin de services en santé mentale? Est-ce que les gens qui n'attendent plus, entre guillemets, ont vraiment des services à l'heure où on se parle?
Absolument. Moi, j'ai totalement confiance au ministre Carman. Il prend ça à cœur, comme vous ne pouvez pas vous imaginer. Là, il se retrouve, en plus du dossier des jeunes, avec les problèmes de santé mentale. Mais je peux vous dire, quand Lionel me dit que les listes d'attente ont beaucoup diminué, moi, je le crois totalement, ce sont des personnes qui ont été prises en charge.
Merci. Prochaine question.
Oui. Louis de Belleval de Radio-Canada. Monsieur le Premier ministre, dans quelle mesure croyez-vous que les problèmes de santé mentale pourraient devenir l'angle mort de la deuxième vague, comme les CHSLD l'ont été lors de la première?
Bien, c'est certain qu'il y a un risque associé à la santé mentale. C'est pour ça qu'on a augmenté les ressources. On a engagé 300 personnes de plus. On est en train d'engager un autre 300 personnes de plus. On travaille, comme je le disais, avec les policiers. Donc, il y a effectivement un risque associé à la santé mentale parce que dans la balance des inconvénients, on n'a pas le choix, malheureusement, d'amener certaines restrictions qui font que les personnes sont plus seules. Parce qu'elles sont plus seules, il y en a plus qui souffrent de problèmes de santé mentale. Donc, il faut ajouter des ressources. C'est ça qu'on a commencé à faire déjà, qu'on va continuer de faire.
Le docteur Carman va procéder à une annonce cet après-midi, mais vous avez dit que votre gouvernement a déjà fait beaucoup jusqu'à maintenant en santé mentale. Pour me rafraîchir un peu la mémoire, pourriez-vous nous résumer un peu ce qui a été fait jusqu'à maintenant?
Bien, on a embauché, entre autres, 300 personnes additionnelles. On a augmenté les budgets aussi pour permettre d'aller donner des contrats au privé. Parce que, on le sait, là, les personnes qui travaillent en santé mentale ont un salaire moins élevé que les personnes qui travaillent au privé. Donc, évidemment, on est en négociation, toute la question d'équité. Donc, ce qu'on fait actuellement, c'est de donner des contrats aux gens du privé pour venir aider dans le secteur public. Donc, tout est fait. Lionel veut embaucher un autre 300 personnes, donc on va être rendu à 600 personnes. Évidemment, le défi, c'est de combler certains postes de psychologues, psychiatres, travailleurs sociaux. Donc, on en a déjà fait beaucoup. La semaine dernière, on annonçait un autre programme pour les jeunes. Il y a eu de l'argent additionnel qui a été donné aussi aux organismes qui s'occupent des problèmes de santé mentale. Donc, il y en a déjà beaucoup de faits, mais il y en a encore à faire.
Puis, en cette matière-là, est-ce qu'il y a des façons d'évaluer la qualité du travail qui a été accompli jusqu'à maintenant? Est-ce qu'on peut mesurer les résultats?
Oui. Bien, écoutez, comme je le disais tantôt, les listes d'attente, c'est important de les suivre. Il faut s'assurer que les personnes qui ne sont plus sur la liste d'attente sont vraiment prises en charge. Mais l'idée, c'est de dire qu'il faut qu'il y ait une vraie prise en charge des personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Puis une prise en charge, c'est des rencontres régulières.
Merci beaucoup.
Merci. Passez au Journal de Montréal.
Bonjour, M. Legault.
Bonjour.
Donc, Clara Loiseau du Journal de Montréal. On sait que la santé mentale, en ce moment, c'est un gros enjeu, surtout après avoir vu les événements qu'il y a eu à Québec. Est-ce que ça peut jouer pour les futures mesures sanitaires que vous allez peut-être changer dès le 23 novembre?
Bien, écoutez, c'est un équilibre qui est fragile. Malheureusement, vous le voyez, là, on reste à 900 000 cas par jour. Ça va amener des décès. On ne veut pas de décès. ou en tout cas, on en veut le moins possible. Donc, les mesures, moi, j'aimerais bien les enlever, mais actuellement, on n'a pas vu de baisse significative du nombre de cas. Donc, on espère que dans les prochains jours, les prochaines semaines, on va en voir.
Merci. S'il n'y a pas d'autres questions en français, on va passer aux médias anglophones.
Alors, c'était la mêlée de presse inhabituelle qu'on la diffuse, mais vous avez vu son importance d'entendre le premier ministre François Legault dans les heures donc qui suivent une tuerie à Québec qui a choqué tout le monde, qui a vraiment bouleversé tous les Québécois. Et c'est ainsi que d'ailleurs que le premier ministre a commencé en disant qu'on espère que le temps va un peu atténuer la douleur, mais il a surtout rendu hommage aux victimes, aux voisins aussi qui les ont secourus. Merci aux gens de Québec, a dit François Legault. Ce qu'on a vécu, c'est vraiment effroyable. Comment est-ce qu'une telle violence gratuite peut exister? Il a rappelé que cet après-midi, puis d'ailleurs on va le diffuser à 13h, ce sera le point de presse du ministre délégué à la santé et aux services sociaux, Lionel Carman, qui va donc annoncer d'autres services en santé mentale au Québec qui vont se rajouter donc aux 25 millions récurrents annoncés la semaine dernière pour les jeunes en santé mentale. C'était surtout l'embauche de personnel, l'ajout d'heures aussi. Donc là, ce qu'on semble comprendre, c'est qu'il y aura d'autres ajouts, là, d'autres millions qui, eux aussi, seraient récurrents. On dit qu'on va embaucher 300 personnes, qu'il y en aurait un 300 autres de plus. C'est ce que veut faire François Legault, c'est réduire les impacts en donnant plus de services. Évidemment, vous avez peut-être entendu, puis on a gardé cette clip-là de la part de François Legault. On vous la fait réentendre dès que possible. Max, tu me le dis là, quand c'est prêt. François Legault qui revient donc sur la réduction des impacts, mais en même temps, il prévient qu'il ne faut pas non plus le croire que plus de services, plus d'argent, ça va changer quelque chose forcément demain matin.
On peut réduire les impacts pour certaines personnes qui ont des maladies mentales. Je dirais même qu'en donnant plus de services, il y a plusieurs personnes qui peuvent voir les conséquences réduites, mais il faut être réaliste. Même si on avait tous les services, même si on prenait en charge tous les Québécois qui ont des problèmes de maladie mentale, on ne pourra jamais éviter tous les drames violents.
Alors, voyez là, on peut faire ce qu'on peut, mais il y a une limite à l'intervention. Mais c'est sûr qu'on peut faire plus. Et je pense qu'il a rappelé avec justesse le fait qu'il y a un manque à gagner aussi. La participation du fédéral ici doit être encore débattue, questionnée, parce qu'on est passé d'un financement de la santé, incluant la santé mentale, de 50 % à 20 %. Donc, oui, les villes peuvent y faire un peu, mais la ville, on l'a vu, que ce soit Québec, Montréal, Sherbrooke, la ville a des limites en termes de ressources. La province a des limites dans la mesure où on envoie une partie de nos impôts au fédéral. Le fédéral doit redonner aux provinces. On va aller voir tout de suite ce qu'en pense la juge à la retraite, Nicole Gibeault. Nicole, merci de prendre ce temps. Réaction à chaud, Nicole. Le premier ministre a dit, bon, mais même si on avait tous les services, on ne pourra jamais éviter tous ces drames. Vous avez déjà fait, justement, interner des gens là, qui avait ce genre de problème de santé mentale important. On parlait du P38 tout à l'heure avec notre ex-policier puis avec le docteur Chamberlain. Nicole, il y a une loi sur la dangerosité, mais elle aussi, elle a des limites. En fait, il y a des limites partout, là.
Oui, il y a des limites partout parce qu'évidemment, on est dans un état de droit qui a beaucoup de respect, puis c'est bien correct pour la personne comme telle. Et à chaud, j'ai dit exactement la même chose. J'avais exactement la même chose en tête que le docteur Chamberlain et M. Paul et le premier ministre. On ne pourra jamais éviter à jamais ce genre de problème-là parce que c'est absolument impossible. Mais comment limiter les dégâts? Et oui, vous avez raison, Isabelle, il n'existe pas juste la loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui. Ça, c'est une loi qui est complémentaire au Code civil. C'est dans le Code civil. Alors, la raison pour laquelle j'ai évidemment agi à titre de juge avec chapeau civiliste, là, un chapeau de droit civil, en fonction des articles prévus au Code civil, mais évidemment, les balises, vous avez raison de le soulever, les balises, c'est qu'il faut que cette personne-là, si on a des motifs sérieux de croire que la personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui, vous avez entendu le docteur Chamberlain, vous avez entendu M. Paul, tout le monde, ça rime, toutes les lois et tous, ça rime pour dire que ça prend quelque chose de sérieux. Et ce que j'ai trouvé d'intéressant à soulever pour notre converse ensemble, c'est que le docteur Chamberlain dit, écoutez, c'est pas drôle, là, quand la famille, parce que oui, tout intéressé, dont les membres de la famille, le père, la mère, un médecin, peut faire cette demande-là en garde provisoire, puis après ça, il y a plusieurs étapes. La demande d'examen psychiatrique, tant de périodes, 7 jours, 3 jours, 48 heures. Bon, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de petits points qu'il faut qu'on arrive ensemble pour en arriver là. Mais oui, je l'ai vu, je l'ai vécu, c'est pathétique. J'ai vu un père revenir avec son fils dans ma salle de cours. Et c'est vraiment pathétique. Et le cri du fond du cœur, pas juste un père, j'en ai vu plus qu'un dans ma vie, là. On en voit beaucoup. À chaque semaine, on envoyait ceux qui siégeaient en civil, là, où on demandait effectivement une garde en établissement. Les étapes avaient été passées parce que vraiment, c'était pour son bien. Et de voir le témoignage du père ou de la mère ou d'un membre de la famille dire « parce qu'on t'aime », parce qu'on veut du bien, parce que c'est vraiment pathétique. Mais c'est sûr qu'on ne prend pas de décision, puis ça, je rassure la population et tout le monde, autant pour les personnes qui sont atteintes de maladies, puis c'est pas tout le monde qui commet des gestes comme ça, là. On ne prend pas de ce genre de décision, à moins d'être appuyé sur des rapports des médecins psychiatres. Minimalement 2 dans la loi, on dit, là, pour pouvoir interner pour un délai de 21 jours, là, au début, là, une personne pour son bien, pour voir si on peut le faire traiter. Puis même là, si on prescrit des médicaments et qu'on peut, la Cour du Québec, ça, c'est notre rôle, mais si on voulait prescrire des médicaments puis qu'ils refusent, ben là, il faut monter à la Cour supérieure, c'est un refus de prendre des médicaments. Oui, c'est lourd. C'est très, 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 très lourd. Et ça, c'est un cadre législatif. Donc, on a beau avoir plein de solutions d'encadrement, mettre des fonds, avoir plus de personnel, aider dans la rue, etc. Ça, c'est fantastique d'avoir des accès rapides, coûte moins cher, parce que si on dit à quelqu'un, même dans un milieu de travail, tu as le droit à seulement 3 fois d'aller voir le psychologue, ben la 4e fois, j'ai pas d'argent, puis c'est peut-être la 4e fois qu'il va avoir un problème. Ouais. Alors,
qu'on comprend qu'il y a des balises importantes, partout, Nicole Gibault, partout. Parce qu'on veut pas revenir à un système asilaire où l'individu subissait souvent à outrance des traitements qui étaient infligés. On veut pas que ça soit comme un endroit où on place du monde jusqu'à la vie. Là, on comprend qu'il y a beaucoup d'étapes. Je veux parler vite à Linda, qui l'a vécu avec son frère. Bonjour, Linda.
Bonjour, je suis très émotive. Je trouve ça très difficile avec ce qui se passe à Québec et surtout pour mon frère. Je m'excuse.
Mais non, je comprends. Prenez votre temps, Linda. Je comprends tout à fait.
Oui.
Donc, vous, votre frère a ce genre de problème-là. Puis ça a été. Avez-vous essayé, vous, le P38? Avez-vous essayé de demander à un juge?
Oui, madame. Je vois tout. Comme Mme la juge a dit, Dr Chamberlain,
oui.
Moi, j'ai fait le P38. J'étais la sœur contre le frère. Mmh. C'était très, très dur. Vous savez, les conséquences de la désinstitutionnalisation, c'est grave. Vous savez, le droit du malade, vous savez, en santé mentale, il faut plus de lois, plus fortes pour aider ces personnes qui ne veulent pas s'aider. Vous comprenez? Les médecins sont soumis à un secret professionnel, je comprends. Et la loi aussi, parce qu'évidemment, lorsqu'on est face à la maladie mentale, il faut avoir un danger imminent. Alors, vous comprenez bien que le danger imminent, c'est pour la personne si elle veut se suicider, puis avoir un danger pour les autres. Mais le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait si c'est pas imminent? Vous voyez?
Voilà, c'est ça.
C'est ça la question. Ouais. Voilà. Alors, moi, mon frère intervenir, moi, ce que je demande, parce que l'ayant vécu de façon très difficile, je vois qu'il faudrait intervenir dès la première crise. C'est ça que je veux mettre le point, parce que j'ai entendu le Dr Chamberlain tout à l'heure, et vous savez, quand on est obligé de faire une ordonnance d'un juge, moi, je l'ai fait à la 3e crise de mon frère, qui était psychose, schizophrénie, etc. Donc, c'était très dur parce qu'en plus, mon frère a fait des dommages à Ottawa. Il était en prison, en cour supérieure. On est dû aller à Ottawa. C'était extrêmement difficile.
Linda, je dois malheureusement vous arrêter. Vous m'en voudrez pas. On a pris vos coordonnées. J'aimerais qu'on puisse prendre le temps de se rappeler puis de discuter ensemble. Merci beaucoup de votre appel. On garde le contact. Nicole Gibault, juge à la retraite, merci de votre intervention. On se retrouve après les nouvelles.